bienvenue dans ce voyage littéraire au cœur des archives de Radio Campus Paris. Pour débuter cet ouvrage, l'émission Prose de comptoir, diffusée en 2015, va nous mener dans différents lieux parisiens à la rencontre de protagonistes qui ont toutes sortes d'histoires à nous conter, nous réciter et même nous chanter. Nous les entendrons à tour de rôle déclamer poèmes, contes, comptines et autres fables, ayant bien souvent marqué leur enfance et qu'ils souhaitent partager avec nous.
Chapitre 1.
Prose de comptoir. Quand Radio Campus Paris ouvre grand ses oreilles à la poésie qui traîne sur le zinc. Cette semaine, on déniche de la prose de comptoir dans les hauteurs de Montmartre. C'est un café tout en boiserie et en mosaïque où quelques habitués se confondent parmi les touristes. Des tableaux accrochés au mur et quatre horloges. Nous sommes au 11 rue Feutrier. Au comptoir, on nous raconte un conte en kabyle. Inici dex imensi, dit-on. Il y a un repas dans le hérisson.
كوند يو نو ميسيا يتدوس خميس يملل ديون وزير وزيرم ينغثو سميض.
Un paysan qui rentrait chez lui trouve sur la route un serpent gelé par le froid. Le pauvre, se dit-il, s'il reste là, il risque de mourir. Il le prend et le met dans le capuchon de son burnous.
Zra ينايس وميسيا وزيرم ين ين ذاك وير اكجمع سخامي و اتحموض كي يغل الروح. ضغى أزرم يقفل يريث يقول مونيس ويقول مونيس مثل دون أزرمني يغلي تدروح يحمى يقول مون برقزني.
En cours de route, le serpent réchauffé reprend vie. Il sort du capuchon, s'enroule autour du cou de l'homme et se met à serrer. Mais qu'est-ce que tu fais ? S'écrie l'homme. Je veux t'étouffer, puis te dévorer, dit le serpent. C'est comme ça que tu rends le mal pour le bien ? Je t'ai trouvé gelé, je t'ai mis dans mon capuchon pour te réchauffer, et tu veux me tuer ? Je ne t'ai rien demandé, dit le serpent, et il se met à serrer plus fort le cou du malheureux.
انتقد وزير انيس هكان ثرا ذاك الشيء انيس ورقاز فقواليس.
Je veux que cette affaire soit portée devant la justice, dit l'homme. Soit, dit le serpent, demandons l'arbitrage du premier venu. Or, c'est un hérisson qu'il rencontre en premier. On lui explique l'affaire. Le hérisson, qui a compris tout de suite de quoi il s'agit, s'exclame. Descends du cou de cet homme. Chacun des adversaires défendra sa position et je jugerai.
يحروج ضغى زرمني يغسى وليس يرسد سوق مقارني وارقزني ارقزني اكن ديرس وزرمني ويدم تاكوست ينغى زرمني ينغث انيسين يروس خميس ارقزني قم يعزر من غث انيس اها سوا ضغى ذي ملسين وراوي تكفى تلمير ثنوان.
Le serpent descend. Aussitôt, le hérisson s'écrie « Vite, tue-le !» L'homme frappe, lui brisant la tête. Le hérisson, lui, est déjà parti. Ah, se dit l'homme, voilà le repas de mes enfants qui m'a glissé entre les mains. Inici dex imensi est un conte, une légende de la tradition orale berbère. Le hérisson, dans cette tradition, c'est l'animal qui incarne la ruse. Ça se dit inici. Et inici dex imensi, ça veut dire le hérisson fournit un bon repas. Rusé mais pas mauvais, c'est un cousin de notre renard, mais du bon côté de la force, puisque le hérisson ne fait pas le mal pour le mal. Au contraire, il aide le pauvre homme à se débarrasser du serpent. Et finalement, c'est l'homme qui semble être le plus ingrat des animaux.
Alors méditons sur la morale de cette histoire tout en cheminant vers l'est de la capitale.
Dans le 19e arrondissement, l'avenue Jean Jaurès gronde. Les marchés fourmillent, la vie s'active à toute allure et, Sur ces larges trottoirs, soudain, une oasis, quelques tables multicolores, une terrasse ambiance paillote de bord de mer. C'est l'abracadabra. Au comptoir, un jeune homme trouve l'endroit propice pour nous raconter des histoires abracadabrantes.
C'est quoi le poème que tu...
Bah alors, moi, je connais une petite comptine que je raconte aux enfants. En fait, c'est l'histoire de la sorcière du placard au balai. Donc, c'est Monsieur Pierre qui achète une petite maison. Et en fait, dans cette maison, il y a une sorcière. Et elle est dans le placard au balai, évidemment. Et elle n'en sort que s'il chante une chanson qui est « Sorcière, sorcière, prends garde à ton ». Et il ne faut jamais qu'il dise la fin. Et un jour, il dit la fin parce qu'il est un peu bourré, c'est le jour de l'an. Et il lui dit « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Et là, elle sort pour l'emporter. Mais comme il est malin, il va s'en sortir par une raison mystique.
Il fait comment? On sait pas.
Ah si, on sait dans le livre. Je raconte comment il fait?
Oui.
Alors comment il fait? En fait, il va voir Papa Saïd, l'épicier de la rue Broca, qui lui conseille de demander à la sorcière la grenouille à cheveux longs. Et en fait, la grenouille à cheveux longs, c'est la sorcière. Et donc, pour lui donner la grenouille à cheveux longs, elle est obligée de se transformer en grenouille. Et si on lui coupe ses cheveux, elle n'a plus aucun pouvoir. Et il la met au défi, lui dit, si t'es pas capable de me ramener ce que je te demande, t'es pas une vraie sorcière parce que t'es pas magique. Donc soit tu m'emportes si tu me ramènes ce que je te demande, soit tu m'emportes pas et tu me laisses tranquille. Et donc elle lui dit, si, je vais te ramener la grenouille à cheveux longs. Il l'attrape et lui coupe les cheveux. Et il s'en sort parce que quand elle a plus de cheveux, elle a plus de pouvoir.
Et il est très intelligent.
Voilà, il est très intelligent.
Les enfants, ils réagissent comment quand tu leur as...
Les enfants, ils aiment bien cette histoire parce qu'elle fait un peu peur, mais elle est marrante. Parce qu'on dit à la sorcière, prends garde à ton derrière, donc ça les fait rire.
Sorcière, sorcière. La rue Broca n'est pas une rue comme les autres. Dans la préface des contes de la rue Broca, Pierre Gris Paris, son auteur, nous explique. Paris, en cet endroit, dit-il, présente une courbure et passe pour ainsi dire au-dessus de lui-même. La rue Broca est une dépression, une rainure, une plongée dans le subespace à trois dimensions. Une rue qui sort tout droit d'une autre dimension, voilà un cadre plutôt propice aux histoires merveilleuses. Le recueil publié en 1967 est illustré par Claude Lapointe. De la sorcière de la rue Mouffetard à la fée du robinet, en passant par le géant aux chaussettes rouges et le roman d'amour d'une patate, ces 15 récits sont construits selon les codes classiques du conte de fées. Ils mettent en scène un narrateur qui relate ses différentes aventures avec des fées, des sorcières, des princes, des ogres. Mais c'est dans un cadre parfaitement particulier, oui, parfaitement parisien, que les contes prennent racine. Au comptoir de l'épicier Monsieur Saïd.
Alors, enfourchons notre balai magique et volons un peu plus au sud de la ville, du côté du quartier Étienne Marcel.
Étienne Marcel n'était pas particulièrement poète, ni écrivain, ni chanteur, pas franchement artiste. Par contre, le coin de Paris qui porte son nom, lui, a des histoires à nous raconter. Des histoires qui ont fait le tour du monde. Et au comptoir d'un petit bistrot de la rue Lescaut, au calme, on voulait voyager un peu. La serveuse d'origine russe, qui parle un français impeccable, nous propose une fable de son pays, apprise alors qu'elle n'avait même pas 10 ans. Et en langue originale, s'il vous plaît. En français, on traduirait le titre par « La cigale et la fourmi », me dit-elle. Ah bon ? Fable russe ? Pas si certain. Quoi qu'il en soit, au plus grand plaisir de nos curieuses oreilles, on l'écoutera en russe.
Стрекоза и муравей. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли. Как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло зимой холодной, нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться силой, и до вешних только дней покорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. До того, голубчик, было в мягких муравах у нас. Песни, резвость, всякий час. Так что голову вскружила. А так ты, я без души лето цветое все пела. Целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши. Та-да!
Ça, c'est la cigale et la fourmi en russe.
Exactement.
Elle s'appelle comment?
Strikaza et Mouravei.
Et c'est l'auteur, le traducteur?
Krylov. Ivan Andreevich Krylov.
En fait, ce n'est pas tout à fait une cigale, c'est plutôt d'une libellule dont il s'agit. Le poète russe Krylov, dans les années 1800, a traduit la fable de La Fontaine. Seulement les cigales, en Russie, pas la peine de vous dire que ça n'existait pas. Alors, traduisons donc cette fable française traduite en russe en français. La libellule et la fourmi. La libellule voltant de ci de là avait chanté tout l'été. Elle n'avait pas eu le temps de regarder que l'hiver arrivait devant ses yeux. Les champs étaient vides. En effet, les beaux jours étaient passés où sous chaque feuille était prêt la table et le gîte. Tout était passé. Avec l'hiver froid, la pénurie, la famine commençaient. La libellule cessa de chanter. Qui s'amuserait à chanter quand l'estomac est vide ? Affligée par une détresse profonde, elle rampa vers la fourmi. « Ne m'abandonne pas, ma chère amie. Donne-moi pour retrouver ma force jusqu'au retour du printemps seulement de la nourriture et de la chaleur. » « Commère, cela est étonnant. Tu n'as pas travaillé pendant l'été ?» lui dit la fourmi. « Pourquoi, ma chère, aurais-je dû ? Dans l'herbe gentille, nous chantions, gambadions à toute heure jusqu'à nous faire tourner la tête. Ah, c'est ainsi ? Oui, moi, sans réfléchir, tout l'été, j'ai chanté. Tu chantais ? Quelle affaire ! Alors va-t'en et danse maintenant. »
Quant à nous, eh bien, partons maintenant, direction le 18e arrondissement.
Au 11 rue Muller, des barbies à tête de poule, des livres en peau de lion, des singes maîtres du temps. Bref, tout ça dans la même vitrine. C'est un cabinet de curiosité. Et une maison d'édition aussi. Alors certes, c'est pas un bar propice aux proses de comptoir, mais après tout, si on a soif et envie de discuter, avec de bonnes histoires à raconter, on peut s'asseoir un instant et prendre un verre. Derrière le petit comptoir au fond du magasin, c'est le gérant qui m'accueille. Un vieux poème de Prévert traîne très loin dans les fins fonds de sa mémoire.
Tu vas me lire quel poème ?
C'est un poème de, je crois, de Jacques Prévert, de quand j'étais petit. C'est « Ne rien faire », peut-être le titre ou pas. On croit que c'est facile de ne rien faire du tout. Au fond, c'est difficile comme tout. Il faut passer le temps, c'est tout un travail du titan. Il faut passer le temps. Ah, du matin au soir, du soir au matin, je ne faisais rien. Ah, quelle drôle de chose, du matin au soir, du soir au matin, je faisais la même chose, rien, je ne faisais rien, j'avais les moyens. J'aurais pu tout avoir, oh là, quelle triste histoire, ce que j'aurais voulu, si je l'avais eu, je l'aurais eu. Mais je n'avais envie de rien, rien. Un jour pourtant, je vis un chien, ce chien qui me plut, je l'eus. C'était un grand chien, un chien de berger. Mais la pauvre bête, comme elle s'ennuyait de son maître, un vieil écossais, j'ai acheté son maître, j'avais les moyens, oh, quel drôle d'écho, oh, quel drôle d'écho ça c'était, que le berger de mon chien, toute la journée il pleurait, toute la nuit sanglotait. Ah, c'était tout à fait insensé, l'écossais dépérissait, il ne voulait rien entendre, il parlait même de se pendre. J'aime mieux mes moutons, chantait-il en écossais, et le chien aboyait. En l'entendant chanter, j'avais les moyens, j'achetais les moutons. Je les mis dans mon salon, alors ils broutèrent mes tapis, et puis crevèrent d'ennui. Et dans la tombe, l'écossais les suivit. Ah, et le chien aussi, c'est alors que je partis en croisière, pour me calmer mes petits nerfs. Ça donne chaud, tu vois. Ouais, je vais aller dans les...
Entre deux bouquins et quelques bêtes empaillées, la voix de Jacques Prévert s'élève. Ce poème ne s'appelle pas « Ne rien faire ». Ça se pourrait, mais ce n'est pas le cas. La mémoire de notre hôte lui joue des tours, même si la récitation, elle, d'une traite, est irréprochable. Ce texte donc s'appelle « Il faut passer le temps. Il fait partie du recueil Histoire, publié en 1946. 99 textes courts comme autant d'histoires à l'après-vert. Calembours, jeux de mots, quasi-absence de vers et de ponctuation sont au menu. Des poèmes sans queue ni tête, donc, à l'image de certaines œuvres de taxidermie que l'on trouve dans ces cabinets. S'il est quelque chose de révolutionnaire dans la poésie de Prévert, ce sont bien ces histoires. Ces histoires à la troisième personne, ces histoires loin du jeu, ces histoires vraies, ces fables folles.
D'humeur rêveuse, nous flânons dans les rues alentour et nous retrouvons soudain face à face avec une curieuse construction.
À l'angle du 170 boulevard de Magenta, dans le quartier de Barbès-Rochechouart, siège un drôle de bâtiment. Des mosaïques égyptiennes, des colonnes et des alcôves. Rien ne laisserait croire qu'il s'agit là d'un cinéma. La salle date de 1921. Elle est au patrimoine historique depuis 1981. Fermée et laissée à l'abandon, elle rouvre en 2013 entièrement rénovée. Si l'on escalade les tortueux escaliers, on atterrit sur le toit. Et là nous attend un charmant café baigné de soleil. Les proses de comptoir ont frappé à la bonne porte. La serveuse rayonnante nous chante Louis Aragon.
Alors c'est l'affiche rouge de Léo Ferré. Enfin d'Aragon, mais pas mal éclairé. Vous n'avez réclamé ni gloire, ni les larmes, ni l'or, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez simplement servi de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe, hirsutes. De nuit hirsute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait en effet de peur sur les passants.
Sur les passants.
Et puis ça continue.
Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux.
Pourquoi est-ce que c'est ça que t'as voulu me chanter?
J'adore cette chanson parce que je la connais depuis que je suis toute petite. J'adore ce poème, je le trouve trop touchant. Et ma mère, elle est tellement fan de Léo Ferré, moi aussi. Du coup, c'est mon chanteur préféré.
C'était ta berceuse.
Voilà, exactement.
Un été différent.
Tout avait la. Au XXe siècle, la plume de Louis Aragon était des plus engagées. Le poème qui résonnait à l'instant au bar du Louxor s'appelle « Strophe pour se souvenir ». Aragon l'a écrit en 1955 et il a été publié dans le recueil « Le roman inachevé ». Léo Ferré, lui, la chante sous le titre de « L'affiche rouge ». Cette affiche rouge, c'est une affiche placardée par les Allemands en 1944. Elle annonce l'exécution de 10 membres du groupe communiste Manoukian. Le poème d'Aragon est un hommage aux 23 hommes qui ont été exécutés dans cette affaire. Il a été écrit pour l'inauguration de la rue du groupe Manoukian dans le 20e arrondissement de Paris. Les vers d'Aragon s'inspirent de la dernière lettre de Missak Manoukian à sa femme avant la fusillade. Ce texte, à travers l'âme et la musicalité de Léo Ferré, prend encore en émotion. C'est la gorge nouée qu'il déclame et met ce poème à nu, uniquement accompagné par des chœurs.
Notre premier chapitre se termine, alors mettons un marque-page et accordons-nous une courte pause. Ce petit morceau de carton, bien pratique, se trouve aussi être le nom d'un format court diffusé sur les ondes durant l'été 2015. On y entend des lecteurs qui, entre deux pages, nous livrent leurs impressions sur leurs ouvrages.
Alors je vois que vous venez de terminer un ouvrage, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu de quoi il s'agit, est-ce que vous êtes en train de lire ?
Oui, il s'agit de Kafka sous le rivage, un livre de Haruki Murakami. C'est pas le premier livre de lui que je lis, mais je peux dire que c'est un de mes préférés. ça parle de destin, de souvenirs. Et c'était un super endroit de finir ici, mon livre. C'est l'histoire d'un jeune qui est abandonné par sa mère. Et à 15 ans, il décide de sortir de chez lui. Après, il y a pas mal d'aventures, un petit peu irréel, comme dans tout le livre de Murakami. Et finalement, il arrive à guérir ses... Je ne sais pas quel est le mot. His wounds.
Et au cours de ce récit, c'est notamment dans une bibliothèque que l'adolescent blessé trouve refuge. Nous allons donc suivre son chemin et nous aventurer nous aussi dans l'antre de la connaissance et du savoir. Mais en veillant bien à y être invité au préalable, car en fait, nous nous rendons chez des Parisiens amoureux des livres qui nous dévoilent leur propre bibliothèque.
Chapitre 2. Retour en 2014 et 2015 avec l'émission
Enlevez vos chaussures, la chronique qui apprivoise les Parisiens grâce à leurs bouquins.
Je suis pas mécontent de rentrer.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Oui.
Marie Cellier.
Est-ce qu'il faut enlever ses chaussures?
Non, mais vous pouvez les essuyer sur le paillasson et puis me donner votre manteau.
C'est très gentil. C'est comment chez vous?
Ben, vous voyez, c'est comme une maison de campagne, et vraiment pas loin de Paris.
Habituellement, je présente les hôtes qui me reçoivent. Ouais. J'aimerais bien que vous le fassiez vous-même.
D'accord. Alors moi, je suis d'abord auteur. Hein. Je suis auteur jeunesse, essentiellement. J'ai publié une centaine de livres en jeunesse. Et puis, je suis aussi très investie dans la défense des auteurs. J'ai été présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse. J'ai été présidente du Conseil permanent des écrivains. Et actuellement, je suis présidente de la Société des gens de lettres.
Alors, ont été président de la Société des gens de lettres, si je ne me trompe pas, Victor Hugo.
Ouais.
Ouais. Mmh. Honoré de Balzac, Émile Zola. Mmh. Qu'est-ce que ça fait de passer après eux?
Bah, c'est bien, ça change. Et surtout, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Je suis la troisième. Il y a eu la première, c'était Camille Marbeau, et la seconde, Régine Desforges. Et voilà, moi maintenant. Donc non, je suis contente. C'est une équipe assez dynamique. Et j'ai une secrétaire générale, Carole Zalberg, qui est une femme aussi. Hein. Voilà.
Bon, alors votre entrée, elle est très très belle, mais j'aimerais voir votre bibliothèque.
Et alors, ma bibliothèque, elle est explosée partout. Donc là, voilà, il y a des bouquins qui sont ici. Alors, en fait, c'est rangé par ordre alphabétique. Ça commence A, là, et puis ensuite, on va grimper à l'étage. Alors, c'est un peu comme entrer dans le ventre d'un être vivant. Hein, c'est très intime, finalement, une bibliothèque.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que la littérature jeunesse, c'est pas de la vraie littérature?
Bah, je suis très fâchée, hein, parce qu'on dit aussi que c'est un marchepied. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques. Il y a aussi des choses moches, mais je ne vois pas pourquoi, dès qu'on parle de littérature jeunesse, on nous juge à l'aune de ce qui est moins bien. En littérature générale aussi, il y a des choses... Donc il y a des beautés comme partout, et puis il y a des livres moyens, et puis il y a des livres franchement mauvais, mais il y a des splendeurs, hein, des splendeurs.
Hein. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tout à l'heure, vous me disiez... C'est intime, la bibliothèque. Qu'est-ce que votre bibliothèque dit de, je sais pas, de votre parcours ou de vous?
De temps en temps, je trouve que je suis un peu touche-à-tout. Je pense que j'ai une bibliothèque de touche-à-tout. Et en particulier, c'est une bibliothèque qui gagnerait à être désherbée. Un peu comme cette maison, il faudrait la désherber, il y a beaucoup de choses. Un petit peu comme mon cerveau aussi, il faudrait peut-être le désherber un petit peu.
Vous montrez votre livre préféré?
Ah, c'est mon livre préféré. Non, je n'ai pas de livre préféré.
Un livre rare peut-être?
Alors, je vais vous montrer un livre rare, un tout petit livre. Alors, vous me suivez dans mon bureau.
On monte à l'étage.
Il fut un temps où il y avait des chambres d'enfants et puis les enfants sont partis, donc je me suis étalée, donc j'ai des bureaux un peu partout. Donc là, c'est le pré-bureau. Mon bureau, il est là, c'est la petite pièce qui est derrière. Et je vais vous montrer mon petit livre rare que j'adore. Il est très petit. C'est donc un tirage limité à 104 exemplaires de Noël 1955. C'est un poème d'André Fresneau qui est illustré par Estève. Ça s'appelle « C'est à valoir ». C'est pour en avoir encore plus. C'est pour avaler, c'est pour la dent creuse. C'est pour avaliser notre bon vouloir. C'est pour l'amuser en attendant. Parce que nous sommes pauvres. Mais parce que demain, nous serons très comblés. Je crois bien, cela brille presque. C'est pour être à notre aise. C'est pour nous dégarnir du trop peu. C'est pour devenir à la hauteur. Peut-être c'est pour nous porter chance. Parce que les corps sont froids. Parce que les cœurs sont friands. Parce que les rats, sans façon, se glissent hors de nos bouteilles. Parce que les fromages de la vertu, à la fin, s'emberlificotent. On va s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui sonne. Je n'étais pas du tout prévu, une seconde. Allô ? Ah, deux colis pour moi. Super, j'arrive.
Marie Cellier, j'ai été ravie de venir chez vous. Je vais vous faire une confidence, c'est la plus grande bibliothèque que j'ai jamais vue. Vraiment.
C'est vrai.
Et alors, j'ai une idée. On va dire au revoir à nos auditeurs et vous allez montrer. J'ai cru comprendre que cette année, vous avez reçu la Légion d'honneur.
Oui. Oui, mais alors, voilà. Alors, la Légion d'honneur, c'est un peu particulier. Il faut attendre qu'on me la remette.
Ah.
Or, bon, c'est Aurélie Filippetti qui m'avait proposé, donc je lui ai demandé, mais comme vous savez, elle est partie. Et donc, je suis restée en carafe. Donc, j'ai la Légion d'honneur sans l'avoir. Hein. Donc, j'ai demandé à Fleur Pellerin de me la remettre. Je pense que ça devrait se faire.
Bon, bah du coup, je vais partir en même temps que mes auditeurs. Merci beaucoup.
Comme le journaliste, nous repartons quelque peu frustrés de n'avoir pu entendre la fin de l'histoire de Marie Cellier. Mais qu'à cela ne tienne, ne restons pas sur ce goût d'inachevé et rendons-nous chez un autre hôte qui habite tout près d'ici.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez.
Merci. Jean-Daniel Magnien, directeur littéraire du Théâtre du Rond-Point.
Est-ce qu'il faut enlever ses chaussures ?
Non, tout va bien.
Bon, je les garde.
Ouais. La maison commence par un couloir très long, très étroit, donc on a choisi de mettre la bibliothèque sur un mètre de hauteur à partir du sol, pour ne pas être écrasé par les livres. Voilà, les deux premiers livres. Moi, j'ai commencé à chercher des livres par les titres quand j'avais 16 ans. J'avais pas d'idée sur ce qu'il fallait acheter, donc j'allais dans les librairies et je regardais les titres. Et les deux premiers livres que j'ai achetés, ça m'a plu comme titre. C'était « Précis de décomposition ». C'était Sioran. J'étais bien tombé. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre qui m'a marqué est « Tractatus logico-philosophicus » de Wittgenstein.
Wittgenstein.
Auquel j'ai rien compris, mais finalement, après, j'ai fait des études de philo. Donc voilà, ça, c'est mes deux premiers bouquins. Et finalement, j'ai l'impression qu'entre 16 et 30, 25 ans, 30 ans, c'est un peu comme la naissance de l'univers. Il y a un Big Bang, il y a énormément de livres qui arrivent, et on vit un peu après toute sa vie sur ces livres. Par exemple, le livre de Sioran m'a marqué. Je serais incapable de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est comme un paysage qu'on a parcouru, on le connaît, il est en soi. Mais je le lirai un jour, je ne sais pas quand. Vous vouliez voir des curiosités, j'en ai pas tellement dans ma bibliothèque, j'en ai une, en tout cas, que je peux vous montrer. C'est un...
un livre tout blanc.
Voilà, c'était le livre de James Ellroy, Underworld USA. Parce qu'on l'a accueilli au Théâtre du Rond-Point, et donc son livre qui est là n'était pas encore sorti. Donc j'avais droit aux épreuves non corrigées, absolument à garder secrètes, à ne jamais les montrer à personne. Il y a plein de fautes, j'imagine.
Donc c'est le livre blanc top secret.
Voilà.
Jean-Daniel Magnien, vous êtes directeur littéraire du Théâtre du Rond-Point. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, directeur littéraire ?
Alors il y avait autrefois des directeurs littéraires dans les théâtres. Il y en a encore dans les... J'en ai rencontré en Bulgarie, par exemple, je pense en Russie, il y en a. Il y en avait un à l'Odéon, au début du XXe siècle. Il faut lire, venez, je vais vous montrer.
Dans alors là, bureau. C'est une petite pièce avec encore des livres.
Voilà, donc un directeur littéraire s'occupe...
C'est votre bureau.
Voilà, principalement du comité de lecture. On reçoit 1200 pièces par an. Alors moi, je lis beaucoup, mais je lis beaucoup de choses qui ne sont pas encore éditées. C'est un petit peu la partie la plus organisée de mes petites bibliothèques réparties dans toute la maison. Finalement, ce qui est le plus organisé, c'est ce qu'on utilise le moins, c'est ce qui est le plus ancien. C'est comme les galaxies lointaines de l'univers. Donc, c'est ce que j'étudiais, ou ce que je lisais quand j'avais 20-30 ans. Donc, Lacan, Freud...
À 3 mètres de haut, comment vous faites pour les attraper ?
Ah oui, ben, je ne les attrape plus. Donc là, on va passer ici, il y a encore une bibliothèque.
Donc, on est dans le salon.
Voilà, le canapé au fond. Là, c'est sous les fenêtres. Là, il y a une zone à laquelle j'espère accéder un jour. J'ai un peu travaillé, mais j'y arriverai sans doute difficilement. C'est les livres en persan, il y a des poèmes soufis, parce que mon épouse est persane, donc j'ai essayé d'apprendre, mais j'en suis loin.
Qu'est-ce que vous voulez nous lire?
Alors, René, je vous ai préparé quelque chose. Des extraits de journaux d'écrivains. Alors, journal de Jules Renard, 26 janvier 1892. Aujourd'hui, tête en ciment, cervelle en plâtre, pas pu écrire une ligne. Journal de Stendhal, 20 avril 1804. Je m'ennuie profondément de ne rien faire. Journal d'Edmond de Goncourt, 10 mai 1874. Des journées de malaise, de souffrance, de détente morale, des journées passées au lit, dans une vague vie. Journal d'André Gide, 3 juillet 1923. Je sombre dans des gouffres d'indolence, d'inconscience, de néant. Journal de Léon Tolstoï, 17 mai 1857. Renverser une salière, lever tard, la tête me fait un peu mal, j'ai le cafard. Edgar Morin, Le vif du sujet, 24 juillet 1963. Toujours aussi vaseux. 19 juillet 1910, journal intime de Franz Kafka. Je dors, je me réveille, je me rendors, je me réveille. Misérable vie. 11 juin 1912, toujours Kafka. Rien, rien. 14 juillet 1789, journal de Louis XVI. Rien.
Merci Jean-Daniel Magnan.
Je vous en prie. Vous voulez un café ?
Avec plaisir. Dégustons notre café tant qu'il est chaud et profitons-en pour faire une pause dans notre récit. C'est l'heure d'écouter l'émission Le Marque-Page.
Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ?
Alors en fait, c'est une relecture parce que j'avais trouvé ce livre absolument fascinant qui a pour titre « Les travailleurs de la nuit » donc a été écrit par un anarchiste du début du XXe siècle qui s'intitule Alexandre Marius Jacob et raconte l'histoire de ces anarchistes qui refusent de la société telle qu'elle est organisée et cambriole donc les gens très très riches en disant que ce ne sont pas eux les anarchistes, les voleurs, mais les personnes qui sont en train de cambrioler et récupèrent le bien qu'ils ont pris au peuple, les travailleurs. Donc l'auteur, en fait, c'est Alexandre Marius Jacob. Il a écrit ce texte lorsqu'il était en prison pour faire des déclarations lors de son procès sur ses idées politiques et sur la façon dont il pense la société. Il y a tout le récit de son arrestation à Abbeville, dans la Somme, et où il argumente avec, pendant le temps de... au moment où il est arrêté, il argumente avec le procureur, avec un avocat, avec un commissaire de police, où il répond du tac au tac sur les accusations qui lui sont faites, mais de façon extrêmement intelligente, et il démonte complètement la logique de la loi, bien sûr.
Après cette digression littéraire et engagée, retournons à nos bibliothèques avec l'émission « Enlevez vos chaussures » et rendons-nous à notre dernier rendez-vous de l'autre côté de la rue.
Bonjour.
Bernard Thomasson, journaliste à France Info et écrivain.
Bonjour, bienvenue.
Est-ce qu'il faut enlever ses chaussures ?
Non.
Alors on est chez vous ?
On est chez moi, alors j'ai deux options, soit je vous montre ma bibliothèque virtuelle.
Ouais.
qui est en forme de papier peint sur la porte d'entrée.
Alors ça c'est fort, sur la porte... Il y a, qu'est-ce que c'est, un papier peint avec des livres
Des livres anciens, des incunables, etc., des très beaux livres reliés. J'en ai une partie là-bas, ce qui fait que je plonge toujours dans les livres.
Ouais.
Soit je vous amène, mais je ne vous amènerai pas dans ma chambre, où j'ai des tables de nuit en forme de livres aussi.
D'accord.
Parce que j'ai plein de bouquins partout.
Mais ce qui nous intéresse, c'est la vraie bibliothèque.
Voilà, avec les vrais livres. Voilà la vraie bibliothèque. Elle n'est pas énorme, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais j'ai deux parties dans cette bibliothèque. J'ai des grands classiques, des livres anciens que j'ai depuis très longtemps, que j'ai gardés depuis mon enfance, mon adolescence, que j'ai accumulé au fur et à mesure. Alors, il y a par exemple tous les grands classiques que moi j'ai lus quand j'étais jeune. Il y a évidemment les Émile Zola. J'ai lu beaucoup d'Émile Zola, pas tout, mais certains. Notamment, alors évidemment, Germinal, la bête humaine, l'assommoir, etc. Nana, que j'ai beaucoup aimé, qui était le livre de cette femme un peu de petite vertu, cocotte, dans les années fin du 19e, etc. Quand on est jeune adolescent, qu'on découvre des bouquins comme ça, c'est toujours un peu palpitant. J'ai une collection assez inédite, alors ça vous le trouverez, je pense. Dans peu d'endroits en France, c'est la Lénine. Collection complète des Lénines,
d'accord.
Les œuvres complètes de Lénine en relié et en français.
Et en cuir,
ouais. Oh, c'est ça, c'est lié à mes parents qui étaient des vieux militants communistes et ma mère m'a légué cette collection complète. Il doit m'en manquer deux ou trois simplement. Et je garde aussi pour mes vieux jours, alors tout là-haut, ceux-là je les attraperai quand je, si je peux encore, malgré l'arthrose. C'est tous les grands philosophes, Voltaire, Sénèque, Platon, Aristote, bon, qu'on lit toujours un peu forcément. Ouais, ouais. Mais là j'ai des œuvres aussi quasi complètes que j'essaierai de lire un peu plus tard. Ça c'est la partie un peu, je vais dire, voilà, classique. Et puis de l'autre côté, on va faire le tour. Il y a la partie plus contemporaine. Alors ça, c'est des bouquins plus actuels. Alors, Musso qui m'a même cité dans son dernier bouquin.
D'accord.
Marc Lévy, etc. Ça, c'est des, c'est de la littérature très contemporaine. Je suis par exemple très fier d'avoir du Kefelec, qui est maintenant devenu un ami, mais qui à l'époque ne l'était pas, qui m'a dédicacé des bouquins.
Hillary Clinton, il est dédicacé.
Hillary Clinton, non, mais j'ai un Bill Clinton qui est dédicacé derrière. Ouais. Voilà. Enfin bon, c'est des livres.
Mike Horn, j'avais lu ça. L'attitude
Mike zéro. Horn, ouais, ça c'est. Je l'avais interviewé. C'était il y a très longtemps. C'était un grand voyageur qui partait en bateau faire le tour du monde. Voilà.
Vous êtes journaliste. Qu'est-ce que la littérature vous apporte dans votre métier?
Du recul, de l'épanouissement et de l'épaisseur. C'est-à-dire que quand on écrit à la radio, c'est une écriture forcément très, très, très condensée, très brève, très directe. Et on travaille avec les mots, mais on est frustré de ne pas pouvoir aller au-delà.
C'est l'inverse de la littérature, presque.
C'est l'inverse de la littérature. Et c'est ce qui m'a incité, à l'âge de 40 et quelques années, à revenir vers la littérature. Je me suis dit, si je ne vais pas vers l'écriture maintenant, j'irai jamais. Voilà, je suis revenu à l'écriture comme ça, et ça me dégage du journalisme, parce que ça me permet d'abord de retravailler les mots d'une toute autre manière, avec beaucoup de joie, de plaisir, de délectation. Je les savoure, voilà, comme une recette culinaire. Ce sont des ingrédients qu'il faut mélanger, qu'il faut marier habilement. Et puis la deuxième différence avec le journalisme, et là c'était beaucoup plus dur pour moi, c'est que le journalisme distancie des émotions. C'est-à-dire que quand vous parlez sans arrêt de mort à travers la planète, d'attentats, de guerres, de meurtres, vous restez très en distance par rapport à ça. J'ai couvert les attentats du 11 septembre, d'ailleurs c'était une de mes nouvelles dans mon premier recueil de nouvelles, où je racontais comment c'est très difficile pour un journaliste d'être sur un terrain comme ça et de garder sa distance avec ses émotions. Et à l'inverse, le romancier, lui, doit puiser dans ses émotions, dans ses sentiments, pour faire vibrer un peu le lecteur.
Qu'est-ce que vous voulez nous lire ?
Je vais vous lire un poème. C'est Paul Éluard, parce que c'est lui qui m'a en quelque sorte incité, ou en tout cas donné l'envie d'écrire. Ça s'appelle « La terre est bleue ».
On vous écoute.
La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours. Elle a sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, mais quel vintement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent vert, l'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres, des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté.
Merci Bernard Thomasson.
Eh bien, bonne continuation et bonne émission.
C'est ainsi que notre histoire s'achève. Mais celle de Radio Campus Paris, elle, est loin d'être terminée.
Cette